Bonsoir à tous. Monsieur Barnou.
Présent.
Monsieur Driche.
Présent.
Madame Vialatou.
Présent.
Monsieur Trémoureux.
Présent.
Madame Lemonnier donne pouvoir à Monsieur Barnou. Monsieur Storez.
Présent.
Madame Courtois donne pouvoir à Monsieur Storez. Monsieur Châtel.
Présent.
Madame Pelé-Chiffrine donne pouvoir à Madame Vialatou. Madame Boisnoc donne pouvoir à Monsieur Poujol. Monsieur Poujol. Monsieur Fabre.
Présent.
Monsieur Delamucia donne pouvoir à Monsieur Trémoureux. Monsieur Le Tarnec. Madame Lerfel donne pouvoir à Monsieur Driche. Monsieur Fasanaro.
Présent.
Madame Michel donne pouvoir à Madame Glover. Madame Trouville. Madame Cornu. Madame Glover. Madame Paolucci donne pouvoir à Monsieur Beau. Madame Guéroumi. Madame Losso. Monsieur Beau. Monsieur Mokhtari donne pouvoir à Madame Losso. Monsieur Assous donne pouvoir à Madame Cornu. Monsieur Rapti. Madame Diringer donne pouvoir à Madame Grandjean. Monsieur Doublet donne pouvoir à Madame Grandjean. Monsieur Pupeau. Madame Grandjean. Madame Borduy donne pouvoir à Monsieur Pupeau. Madame Louaille.
Chers collègues, en ce début de conseil, je voudrais rappeler la mémoire du président Giscard d'Estaing qui nous a quittés le 2 décembre et qui a été donc président de la République, comme chacun le sait, de 1974 à 1981, après avoir été longtemps ministre de l'économie et des finances et après avoir joué un rôle éminent dans notre pays. Je retiendrai de plusieurs points de la vie de cet homme politique de premier plan. D'abord une phrase prononcée dans un contexte qui nous invite aujourd'hui à la réflexion. Qui que vous soyez, inconnu ou célèbre, faible ou puissant, vous détenez une part égale du destin de notre pays. C'était lorsqu'il a écrit son livre qui s'appelait « Démocratie française ». Il a donc, pendant sa présidence, modernisé beaucoup notre pays, lui a donné un souffle nouveau. Je ne veux pas revenir sur toutes les mesures qu'il a prises, chacun s'en souvient. Je retiendrai simplement que c'était un Européen convaincu qui a joué un rôle extrêmement important pour le processus européen pendant son mandat et après son mandat, lorsqu'il a souhaité travailler en faveur de la Constitution, enfin lorsqu'il a été, il a été proposé pour présenter la Constitution de notre Union. Il aura donc marqué très profondément la Ve République de son empreinte. Voilà, donc en ce début de conseil municipal, je vous propose de respecter une minute de silence en sa mémoire. Oui, Madame Trouville, je propose Madame Trouville comme secrétaire de séance. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. La première délibération porte sur l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 novembre. Je ne pense pas que ça donne lieu à des commentaires particuliers. Qui est favorable? Qui s'abstient? Oui, très bien, je vous la donne.
Ah, je veux bien prendre celui de mon voisin, c'est pas un souci.
Je vais me rapprocher pour qu'on m'entende. Juste pour expliquer un peu, comme à l'accoutumée, notre vote contre ce qui est appelé un procès-verbal. Alors aujourd'hui, il y a peut-être une raison supplémentaire. Déjà, je voudrais signaler qu'un procès-verbal, c'est un écrit qui résume ce qui a été dit, fait, décidé. Dans les documents qu'on reçoit, on n'explique pas les votes de l'opposition, on vous le signale à chaque fois, on trouve ça très regrettable. La deuxième chose, c'est qu'on a compris qu'il y avait un recours sur l'élection des maires adjoints qui avait été entamé par le préfet, et dans le doute du résultat de ce recours, nous souhaitons également voter contre ces documents. C'est ce que vous appelez procès-verbaux.
Merci pour votre prise de parole. J'ai du mal à voir le rapport entre les deux sujets, mais nous entendons votre remarque.
Les deux sujets sont indépendants, c'est deux arguments différents.
Oui, très bien, je vous remercie. Qui est favorable ? Je vais redemander de passer au vote. Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point numéro 2, je vais passer la parole à M. Châtel. Il s'agit des dérogations accordées au repos hebdomadaire par le maire dans les commerces de détail.
Bonsoir, chers collègues. Donc, je ne vais pas vous lire toute la note de synthèse, mais je vais quand même en rappeler quelques éléments essentiels, en particulier pour les nouveaux élus dont je fais partie, afin que chacun comprenne le mécanisme d'une telle dérogation. Donc, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, donc dite loi Macron, a élargi les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche. Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. La dérogation ayant un caractère collectif, elle bénéficie à l'ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune et non à chaque magasin pris individuellement. En ce qui concerne les salariés, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche, dans le cadre des dimanches du maire. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d'un repos compensateur équivalent en temps. Voilà, donc dans le cas qui nous occupe, la métropole du Grand Paris a été sollicitée pour avis par courrier en date du 19 octobre 2020 et a rendu un avis favorable dans une délibération datée du 1er décembre 2020. Donc, l'arrêté du maire relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés. Ceux-ci ont été sollicités pour avis durant le mois de novembre 2020. Les dimanches autorisés pour les commerces de détail d'une part et les concessionnaires d'autre part sont listés sur la note de synthèse qui vous a été remise. Donc, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir porter la dérogation au repos hebdomadaire dans les commerces de détail hors concessionnaire automobile à 12 dimanches pour l'année 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre l'arrêté collectif correspondant après avis de la métropole du Grand Paris et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés. Il est également demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir porter la dérogation au repos hebdomadaire dans les commerces de détail exclusivement des concessionnaires automobiles à 5 dimanches pour l'année 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre l'arrêté correspondant après avis des comités d'entreprise.
Je vous remercie. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3 porte sur l'acquisition par la ville d'un terrain de 1175 mètres carrés pour le prix de 50 000 euros. Il s'agit d'un terrain situé dans une zone naturelle qui a été classée en zone naturelle par le précédent PLU, enfin le PLU en cours de, qui est actuellement en vigueur. Et donc, ce secteur proche du château des Rais, proche du parc des Rais, nous intéresse la ville pour le moyen terme. C'est la raison qui justifie son acquisition. Un prix qui est inférieur au prix des domaines. Madame Grandjean.
Bonsoir. Vous dites que ça intéresse la ville à moyen terme. Vous avez donc un projet pour ce terrain. On peut savoir lequel il est.
Ben écoutez, Madame Grandjean, je vous renvoie au programme qui était le nôtre. Si vous l'avez lu avec attention, ce dont je ne doute pas, vous avez observé que nous souhaitions, peut-être avec des partenaires, intervenir sur ce terrain à proximité du château des Rais. Vous savez que la copropriété est une copropriété qui a très peu de copropriétaires, qui présente des difficultés, notamment du fait d'une procédure en cours liée aux problèmes récurrents de fuite d'eau sur la chaussée et d'effondrement de murs. Donc il y a, c'est bien entendu pas ça qui justifie le fait que la ville souhaite s'intéresser à cet espace très important dans notre ville. C'est parce que, bien entendu, c'est un espace récréatif, un espace de distraction potentielle. Vous savez que dans notre projet municipal, nous avons insisté sur l'importance de disposer de 40 mètres carrés par habitant d'espace accessible. C'est un élément central de notre projet municipal, que bien entendu, à mesure qu'il y a des constructions, comme c'est le cas dans toutes les villes du territoire, eh bien, il faut avoir en tête l'idée de développer un potentiel complémentaire d'espace vert plus accessible. Et ça s'inscrit dans cette perspective à moyen terme, pas demain. Lorsqu'un terrain est en vente, on souhaite l'acquérir. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 4, Monsieur Drich, il s'agit donc de l'approbation du protocole transactionnel d'achèvement du contrat de délégation de service public avec la société Elior.
Alors, par contrat de délégation de service public prenant effet en date du 1er septembre 2014, la ville de Chennevières avait confié à Elior la gestion du service public de la restauration scolaire. Le contrat étant arrivé à son terme, les parties ont souhaité apurer les comptes de ce contrat et de préciser les obligations du délégataire relatives au reversement des provisions non dépensées de la ville, c'est-à-dire, en fait, en résumant, de remettre à la ville la somme de 142 310. C'est bien le délégataire qui remet à la ville la somme de 142 310 euros. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le protocole transactionnel annexé à la présente note et d'autoriser Monsieur le maire à le signer ainsi que tout document y afférent.
Il n'y a pas de question, je vous vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Point numéro 5, Monsieur Trémoureux. Il s'agit de l'approbation de la convention type de maîtrise d'ouvrage temporaire avec le CIGEF.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La commune est membre du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. Dit CIGEF, qui exerce un rôle d'autorité concédante de la distribution publique du gaz pour le compte de 184 communes d'Île-de-France. Dans le cadre de sa politique d'enfouissement des réseaux électriques, de communication électronique et d'éclairage public, elle conventionne cet établissement public de coopération intercommunale. À cet effet, pour chaque opération, le CIGEF propose une convention précisant les missions dévolues aux parties en fonction de leurs compétences respectives, ainsi que les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de cette maîtrise d'ouvrage temporaire. Le programme pluriannuel actuel des travaux d'enfouissement des réseaux concerne notamment les voiries qui sont, dont vous avez la liste ci-après. Cette liste donnée à titre indicatif sera déployée chaque année en fonction des budgets votés par le conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention type de maîtrise d'ouvrage temporaire à intervenir entre la ville et le CIGEF pour l'emplissement des lignes aériennes, électriques, de distribution publique, de communication électronique et d'éclairage public, et d'autoriser M. le maire à signer avec le CIGEF les conventions de maîtrise d'ouvrage temporaire et tout document y afférent pour chacune des opérations prévues au budget pour la durée du mandat municipal.
S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous prenions part au vote. Qui est favorable ? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, numéro 6, s'appelle donc la création d'une activité accessoire de moniteur de tir. Comme vous le savez, les policiers municipaux sont entraînés au tir très régulièrement depuis qu'ils sont armés. Et cette pratique du tir se passe généralement dans le cadre des formations obligatoires proposées par le CNFPT. Il nous est apparu intéressant qu'en complément, pour permettre une certaine souplesse dans les jours de formation et pour renforcer la formation, nous puissions bénéficier du service d'un moniteur de tir à raison de 8 heures par mois au tarif de 50 euros. S'il n'y a pas de questions, je vous propose... Monsieur Pupot a une question.
Merci, Monsieur le maire. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir combien d'heures de formation ont déjà été dispensées. Et la seconde question, c'est quel est l'organisme qui va assurer la formation de cette activité accessoire ?
Donc, premier point, on pourra vous fournir très précisément, là je n'ai pas en tête le nombre d'heures, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est important. Mais on vous donnera le plan de formation correspondant, par écrit, le plan de formation correspondant des policiers municipaux, en tous les cas... Il est beaucoup plus important, par exemple, que les policiers nationaux, à savoir c'est 3 ou 4 fois plus. Là, il s'agit pas des services apportés par un centre de formation ou une société, il s'agit d'un moniteur de tir qui sera, en quelque sorte, un salarié occasionnel de la ville, qui travaillera pendant une période qui est autorisée, puisque vous savez que les salariés ont généralement l'autorisation de travailler en surplus quand leur contrat de travail leur permet, bien entendu, mais c'est le cas, évidemment. Et donc, c'est pendant cette période, il s'agit d'un emploi, encore une fois, de 8 heures par mois. Donc, ça sera probablement une période de 8 heures d'une semaine, mais ça représente 2 heures par semaine. Donc, c'est un emploi occasionnel. Mais je crois que la délibération le précise.
Je peux me permettre un complément, s'il vous plaît, puisque ce qui est étonnant, du coup, c'est que si nos policiers municipaux bénéficient de 4 fois plus que la police nationale, quel est l'intérêt d'en rajouter ?
Si vous voulez, ça a été une demande des policiers municipaux. Alors, on peut toujours trouver que c'est trop, que c'est pas assez.
C'est pas ce que je dis. Je voulais juste comprendre l'intérêt par rapport à un niveau national.
Alors, Madame Basram va compléter mon intervention, mais bon, si vous voulez, avant qu'elle le fasse, je voudrais vous dire quand même que là vous le savez, hein, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose, mais que... Dans le climat actuel, la fonction des policiers municipaux est assez dure. Et donc, nos échanges avec eux que ces formations complémentaires sont apparues utiles. Mais je laisse à Mme Basram la possibilité de compléter mes remarques.
Oui, en fait, c'est en fait un formateur qui travaille déjà pour le CNFPT, mais en fait, passé par le CNFPT contraint énormément en termes d'agenda, surtout. Parce qu'évidemment, toutes les polices municipales doivent être formées. Et donc, en fait, ils ont très peu de moniteurs de tir. Et donc, il a proposé de se mettre en activité accessoire et donc de dispenser directement des cours de tir à notre police municipale. Donc, en fait, quand Monsieur le maire parlait de formation 4 fois plus importante de la police nationale, c'est en intégrant ces heures. Sauf qu'avant ces heures, on les passait dans le cadre de notre convention avec le CNFPT. Donc, on les payait, mais par le biais du CNFPT, alors que là, en fait, on va le payer en activité accessoire.
S'il vous plaît, si vous voulez.
Encore une fois, à mon propos, ce n'est pas l'argent. C'est vraiment l'intérêt de faire d'aller bien au-delà par rapport à vos critères de police nationale. C'est juste ça mon propos, hein. Ce n'est pas une question d'argent. Hein.
Je vous réponds sur ce point. Effectivement, on peut trouver que c'est beaucoup, mais en réalité, on pourrait aussi trouver que les policiers nationaux sont insuffisamment entraînés. C'est une autre façon d'envisager le problème. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent largement. Les syndicats de policiers s'en plaignent très souvent. Donc nous essayons, à partir du moment où on a, bien entendu, il n'est pas question de transformer la police municipale en une police qui aurait participé à des opérations de façon autonome, des opérations correspondant pas à ses missions, mais il arrive assez régulièrement que la police municipale travaille aujourd'hui en relation avec la police nationale, donc se trouve de fait confrontée à des situations pouvant être tendues.
Excusez-moi, je voulais juste intervenir pour, et ce sera juste une explication de vote. En fait, nos questions, c'est surtout qu'on a une note de syntaxe extrêmement courte. On ne remet pas en cause l'intérêt de faire la formation pour les policiers municipales. Simplement, on n'a pas de données. On ne sait pas pour combien de policiers municipaux ça sera de temps, combien de temps chacun, où auront lieu ces entraînements. Puisque si ce n'est pas dans le cadre du CNFPT, enfin voilà, donc en fait, il nous manque beaucoup de données. Alors, Madame Vassra me disait que voilà, vous aviez le plan de formation, qu'elle pourrait nous le donner, mais là, en l'occurrence, on ne l'a pas, donc c'est compliqué de donner un avis, et c'est aussi pour ça qu'on a simplement des questions. Donc, nous abstiendrons sur ce vote.
Merci. Alors, qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne donc le contrat d'assurance des risques statutaires donc pour les agents municipaux. Il s'agit de toute une série de risques qui sont précisés dans la délibération et qui sont des risques qui doivent être obligatoirement couverts. Donc nous adhérons au contrat d'assurance des risques statutaires conclu par le CIG Petite Couronne auprès de CNP Assurance. Et donc ce contrat arrive à son terme le 31 décembre 2021. Le CIG va donc engager une mise en concurrence et il est nécessaire que pour qu'il puisse le faire, que chaque collectivité ou établissement concerné puisse délibérer. C'est ce que nous faisons ce soir. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on vote. Qui est favorable? Je vous remercie. Point numéro 8, il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, il s'agit d'une délibération qui apparaît donc très régulièrement. Concernant les premiers postes, il s'agit donc de postes de promotion interne. Vous savez que quand il y a une promotion interne, il y a nécessité de créer le poste correspondant à la promotion. Concernant les autres créations de postes, il s'agit de postes d'animation, à temps partiel ou à temps complet, mais essentiellement à temps partiel. Concernant les autres créations qui apparaissent dans la deuxième page, enfin dans la page, dans le dos de la page, il s'agit de postes qui pourraient être pourvus compte tenu d'évolutions qui vont apparaître dans le personnel, qui peuvent apparaître dans le personnel au cours de l'année suivante. Je vous rappelle que nous faisons, bien entendu, il y a des postes qui sont supprimés également, ça se fait simplement une fois par an, ça se fait traditionnellement une fois par an depuis déjà assez longtemps, ce qui paraît plus judicieux, ça se faisait avant mon élection, et je pense que c'est une bonne pratique de remettre à jour le tableau des effectifs, je crois que c'est au moment du vote du budget que nous le faisons chaque année. Bon, enfin, généralement, au début d'année, dans la première partie de l'année. Voilà. Donc, voilà le point que je pouvais faire sur cette délibération. Madame Grandjean.
Merci. Déjà, on aurait souhaité pouvoir voter par tableau, dissocier, en fait, le vote par tableau, enfin, voilà, comme on peut faire d'habitude. Sur les premiers, comme vous venez de le dire, c'est chaque année, hein, il y a les créations de postes. Là, on n'a pas les suppressions. Je pense qu'il aurait été bon qu'on ait aussi le tableau des suppressions de postes pour avoir une visée plus globale. Et puis sur les derniers, en fait, alors on n'est pas du tout opposé aux créations de postes. Forcément, la ville a besoin d'agents pour un certain nombre de fonctions. Par contre, sur le dernier tableau, quels sont les nouveaux postes, en fait, parce qu'on n'a pas... en fait, ce sont des créations pour des postes qui ne sont pas encore existants. On n'a pas bien compris, en fait, ces créations-là.
Vous voulez, sur les postes qui ne sont pas supprimés, je me suis déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je me suis expliqué avant même que vous posiez la question. Bon, il n'est pas de tradition qu'on cite le nom des gens, si vous voulez, pour les... concernant le poste de rédacteur, actuellement nous avons donc au service scolaire, il s'agit essentiellement du service scolaire, nous avons deux rédacteurs et ensuite un rédacteur principal qui doit être un rédacteur principal de première classe, Julien Castelin, et nous envisageons le recrutement d'un attaché. Donc c'est une souplesse, si vous voulez, toutes les villes font ça, nous ne sommes pas d'une singularité exceptionnelle, c'est-à-dire que pour être très précis, dans un flux d'arrivée, de départ, toute ville a besoin de pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément liées à l'organisation d'un conseil municipal, c'est-à-dire que évidemment, il est nécessaire qu'un tableau des effectifs ne soit pas comme celui qui existait autrefois à Chennevières avant, pour être tout à fait juste, avant 2008, où il n'y avait pratiquement jamais de suppression de postes, de sorte que le tableau des effectifs était très, très généreux, on va dire, et permettait de recruter qui on voulait. C'était donc comme ça. En 2008, un peu d'ordre a été mis à tout cela. Ça a été prolongé par M. Emerlet, qui a été rigoureux sur ce plan. Et qui d'ailleurs faisait, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire chaque année, une fois par an, faisait des suppressions de postes. Voilà. Et après, avoir tout cela n'exclut pas qu'on ait une marge permettant, raisonnable bien entendu, et c'est le cas ici, permettant d'adapter les effectifs. Je pense avoir répondu à votre question.
Je voudrais juste préciser, je n'ai pas demandé de nom. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, je parlais de poste. Et en fait, habituellement, on a effectivement, comme vous le dites, c'est une pratique habituelle, le tableau des suppressions, pareil, dans le même type de choses, c'est-à-dire deux adjoints techniques ou je ne sais pas moi, voilà, tout simplement. C'est ça que je voulais dire.
Si vous avez... Oui, en fait, on le fait pas systématiquement parce que c'est pas parce qu'on fait un avancement de grade, par exemple, qu'on va supprimer le poste d'adjoint technique. Voilà. Ce qui veut dire, en fait, qu'une fois par an, on fait une mise à jour, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de postes ouverts, le nombre de postes vacants, et c'est là, en fait, qu'on fait des suppressions, on va dire, un peu générales, en disant, voilà, finalement, on a une marge qui est trop importante, et donc on va supprimer quelques postes. Donc c'est probablement ce qu'on présentera début d'année prochaine, une fois qu'on aura un peu finalisé les avancements. Parce que généralement, c'est en fin d'année qu'on termine tous les avancements. Donc voilà. Et juste pour la dernière partie, c'est encore des avancements de grade. Il y a juste un poste créé de réserve, mais tous les autres, ce sont des avancements de grade.
Voilà. D'accord, merci. Donc du coup, il n'y a pas de suppression de poste.
Écoutez, madame, je pense qu'il faut traiter le problème de façon globale, pas simplement sur ces postes précis. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut bien entendu de la rigueur, c'est-à-dire ne pas avoir un tableau des effectifs très éloigné de la réalité, mais que par contre, il est quand même nécessaire d'avoir un minimum de souplesse pour pouvoir procéder au recrutement de façon simple. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une singularité canavéroise, ça se passe comme ça dans toutes les collectivités. Très bien, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ?
De manière dissociée ?
Ah oui, on va voter de manière dissociée, si vous le souhaitez. Donc, concernant le point 1, qui est favorable ? Ce n'était pas toujours le cas dans la mandature d'avant, mais pas la mandature précédente, mais celle d'avant, mais faisons-le. Je comprends très bien cette demande. Donc, point 2. Ah. Alors, ça, c'est clair, là. Point 2. Point 3, qui est favorable. Abstention. Vote contre. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne la fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle à l'égard des agents soumis à des sujétions pendant la période d'urgence sanitaire. Donc, sur ce point, vous savez que le gouvernement a proposé qu'il y ait une possibilité d'accorder une prime qui pouvait être qui exonérée d'impôts et plafonnée à 1 000 euros. Donc, Chennevières a agi de la manière suivante, sur un plan encore une fois plus global. Chennevières a donc décidé de maintenir le régime indemnitaire et l'intégralité du salaire pendant cette période où une partie des agents était absent, de façon à ne pas créer, en quelque sorte, une pénalité liée au contexte, et a appliqué cette mesure complémentaire pour les agents, bon, qui évidemment ne sont pas tous, n'ont pas tous été en contact direct avec le public. Donc, selon les cas, la situation a été traitée différemment. Le plafond est à 1 000 euros pour les personnes qui étaient tout le temps là. Et l'ouverture des droits est rendue possible à partir du moment où les personnels ont été présents au moins 36 heures pendant la période considérée, présent, enfin pas présent simplement, mais présent face au public. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a eu quelques compléments pour des gens qui ont apporté aussi des services de livraison, des services de cette nature, ou de repas, ou des services qui entraînaient également un contact avec le public. Le budget d'ensemble représente, de mémoire, 25 000 euros. Monsieur Pupot.
Ce qui nous aurait intéressé peut-être, c'est d'avoir un détail, c'est un grand mot, mais peut-être une ventilation par typologie de personnel ou de montant de prime. Je ne sais pas si vous allez faire au prorata de présence réellement ou si vous dites par tranche de temps de présence, ce sera 300 euros par... si vous avez fait tant d'heures, ce sera 500 si vous avez tant d'heures. Et puis aussi par rapport à au type de service public qui est rendu, est-ce qu'il y a un critère différenciant qui propose quelque chose de plus, ou enfin voilà, vos modalités d'affectation, on aurait aimé les connaître. Là on a une enveloppe, c'est super, mais on ne sait pas comment ça va se répartir.
Alors ce qui est rémunéré là en l'occurrence, ça n'est pas la présence, c'est la présence au contact du public. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors, concernant les données, donc les montants vont de 140 à 1000 euros, avec une moyenne qui s'établit à 266 euros. Hein, donc, si vous voulez, le système retenu, bien entendu, les 1000 euros, c'est souvent les policiers municipaux, par exemple, ou les employés du CAS. Et donc, après, il peut y avoir des montants plus faibles pour des gens qui n'étaient pas en activité ou qui n'étaient pas au contact du public, mais qui ont participé une fois ou deux, parce qu'il y avait des actions qui ont été menées. Par exemple, essentiellement, c'était des livraisons de courses. Et là, bon, c'est à l'acte, en quelque sorte, que les choses ont été considérées. Et c'est au total, effectivement, j'ai un certain nombre d'éléments, je ne vais pas vous embêter avec tout cela, parce que c'est beaucoup de données, j'ai demandé qu'il y ait une comparaison de fait avec les villes voisines, et le système que nous proposons est plutôt plus généreux que beaucoup d'autres villes. Dans toutes les villes, que je ne citerai pas, je ne vais pas me mettre à entrer en compétition, mais dans toutes les villes, par exemple, le régime indemnitaire n'a pas été maintenu. Donc c'est aussi une chose à voir dans sa globalité. Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne donc la modification de la délégation de pouvoir accordée au maire pour la saisine de la CCSPL. commission consultative des services publics locaux. Alors, dans les délégations qui avaient été accordées, celles-ci n'avaient pas été évoquées. Or, bien entendu, chacun comprendra que lorsqu'on est amené à saisir cette commission, circonstances peuvent le justifier à un certain moment, ça alourdit les choses de saisir le conseil municipal. Bien entendu, l'opposition est présente dans cette commission, donc elle est parfaitement informée de ce qui peut se dire et des décisions prises par cette commission. En Jean.
Juste une explication de vote. On va voter contre comme on avait voté contre pour les délégations. C'est une simple cohérence de vote.
Qui est favorable ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne le règlement intérieur du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de ce règlement intérieur. Il ressemble à beaucoup d'autres. Vous aurez certainement observé qu'un certain nombre des demandes formulées par l'opposition se trouvent quand même présentes dans ce règlement intérieur. Donc, c'est un règlement intérieur soucieux de donner sa place à chacun. Voilà, vous en avez pris connaissance, donc pas grand-chose de plus à en dire. Oui, Madame Grandjean.
Alors, j'ai quelques petites choses à dire. Alors, en fait, effectivement, c'est un règlement intérieur assez classique qui reprend l'ancien règlement intérieur pour la plupart des articles. Il y a quand même quelques modifications qui nous interrogent. Alors, première chose, je vais toutes les lister, on va pas, il n'y en a pas non plus 10. Sur l'article 15 et le temps de parole sur les questions orales. Voilà, on trouve que à la fois le temps de parole est limité à 10 minutes et le nombre de questions orales limité à 5. Bon, ça, pourquoi pas, de toute façon, on en mettait jamais rarement plus de 5. Mais en plus de ça, ces questions orales ne donnent pas lieu à des débats. Donc le fait que ça ne donne pas lieu à des débats était déjà dans le règlement intérieur précédent. Par contre, la limitation du temps de parole par groupe, si je comprends bien, à la fois pour la lecture et la réponse limitée à 10 minutes, voilà, ça nous paraît un petit peu excessif de limiter à la fois, enfin d'interdire à la fois le débat et de limiter le temps de parole. Ça, donc en fait, si, il y a quand même des choses sur ce règlement intérieur à évoquer. Deuxième chose, c'est sur l'article 29. Cet article qui interdit au public et aux conseillers municipaux de procéder à des enregistrements audio, phoniques et ou vidéo. C'est simplement pas légal. Un conseil municipal est public. Toute personne, alors là, on est dans une situation exceptionnelle avec le Covid, ou la Covid, et donc effectivement, pour des raisons sanitaires, il n'y a pas de public. Déjà, première remarque, ça fait déjà deux fois qu'on vous le demande, là, on n'a pas réitéré notre demande auprès de vous, puisque vous ne répondez pas. Mais normalement, ce conseil municipal devrait être retransmis en direct, et pas simplement sur une audio diffusée le lendemain. Première chose, toutes les villes le font maintenant. On est là, pour le coup, un peu l'exception, je pense. Et simplement, cet article ne peut pas exister. Il y a déjà eu nombre de questions au Sénat depuis des dizaines d'années. La réponse est toujours la même. Un conseil municipal est public. Donc, de fait, quand nous sommes là, nous sommes dans une fonction publique. Donc, nous pouvons être filmés. Nos débats doivent pouvoir être filmés, retransmis. Ce qui est interdit, c'est d'en faire un usage qui contreviendrait, qui serait pour utiliser, déformer les images, etc., bien évidemment. Mais voilà, donc je ne comprends pas bien cet article, et moi je souhaiterais qu'il puisse être retiré de ce règlement intérieur. Voilà, donc j'avais noté, si, où il y a des petits retraits quand même. Et puis, une autre chose aussi que nous avons relevée, concernant l'expression des élus. Donc, effectivement, il y a eu des choses d'ajouter, mais bon, c'est simplement parce qu'il faut les ajouter, hein, c'est pas un cadeau. Juste pour rappeler, d'ailleurs, dans le précédent règlement intérieur, on avait les articles, parce que les textes qui repris, en fait, ce sont des textes articles du CGCT. Sur le bulletin d'information, le titre exact de l'article qui suit, c'est-à-dire les phrases, c'est l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale.
quel article?
Donc, du coup, je m'interrogeais si cet encart d'expression, voilà, la majorité continuera à écrire dedans.
Si de quel article parlez-vous, madame?
Et puis, l'article 91. Et donc, du coup, cette page comporte 4000 caractères. Et donc, si c'est cette page qui comporte 4000 caractères pour l'expression de la minorité, devra être partagée en caractères avec la majorité et le groupe minoritaire. Voilà. Et puis si on peut effectivement, voilà, il y avait une possibilité aussi sur l'image, l'envoi d'image qui n'existe plus. Et puis il y a effectivement des ajouts sur le site internet où effectivement la tribune pourra être diffusée sur le site internet, etc. Enfin, dans le cadre de la lettre. Par contre, il n'est pas fait de mention de la lettre du maire et de la place accordée à la minorité dans la lettre du maire en termes d'expression. Voilà, c'était mes questions.
Pour répondre sur l'article 91, une page, jusqu'à maintenant, l'expression des groupes politiques était limitée à 1500 articles, à 1500 caractères, espace compris. Il passe à 2000 caractères par groupe, étant donné qu'une page fait 4000, donc la page est divisée en deux.
Alors, 4000 caractères, ça ne fait pas une page, hein, monsieur Driche. Et ma question, elle n'est pas tellement là, elle est sur le fait que cet article concerne l'expression de la minorité dans les bulletins d'information. Donc ma question, est-ce que la majorité continuera à prendre une part de ces caractères dans l'expression des journaux municipaux?
Je vous invite, Madame Grandjean, à regarder les bulletins municipaux d'autres villes. Et vous verrez que dans toutes les villes, quelles qu'elles soient...
Mais Monsieur Barnot, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe... Mais je vous le dis quand même, Monsieur Barnot, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à Chennevières. Vous intervenez systématiquement en parlant des autres villes, ça n'est pas mon propos. Je vous parle de notre ville à nous,
Chennevières. C'est pas votre propos, mais moi, mon propos, c'est d'organiser les débats. Et je vous demande, de façon tout à fait courtoise... de ne pas interrompre. Moi, je vous essaie de ne pas vous interrompre parce que sinon, ça devient très vite la foire d'empoigne et ce n'est pas, je pense, la bonne méthode pour un conseil municipal. Donc, peut-être que vous ne vous intéressez pas aux autres villes, mais malgré tout, c'est utile de regarder parce qu'il n'y a pas non plus de raison. Chennevières n'est pas une île et il n'y a pas de raison de considérer qu'il devrait y avoir des règles applicables spécialement à Chennevières. Donc, dans toutes les villes, lorsque vous regardez les journaux municipaux, vous pourrez constater que la majorité et l'opposition sont présentes dans les tribunes. Donc, il n'y a pas de lieu que ce soit différent à Chennevières. Bon. Alors, je reprends dans l'ordre les remarques que vous avez faites concernant les questions orales. Bon, les questions orales, c'est la même chose partout. Hein. Là aussi, c'est la même chose au Parlement. C'est la même chose. Elles sont encadrées par des règles. En particulier, ça n'est pas l'occasion d'un débat. Vous imaginez bien que si il n'y avait pas de règles, l'opposition pourrait, ça serait d'ailleurs presque un jeu normal, poser 15 questions et on ferait un second conseil municipal après le premier. Hein. Donc c'est pour ça que le législateur a prévu un encadrement. Nous avons soumis, bien entendu, ce règlement intérieur l'avocat de la ville, ce qui est normal puisqu'il s'agit d'un document qui nous sert de référence. Et donc, cet encadrement de temps est destiné à faire que le conseil municipal se préoccupe de son sujet central, c'est-à-dire les délibérations. Les questions orales sont importantes, elles ne doivent pas non plus déborder. Dans la pratique, 5 questions et 10 minutes, c'est jamais beaucoup plus. Simplement, c'est un encadrement, mais qui ne va pas être contraignant par rapport à la situation que nous connaissons actuellement. Alors ensuite, vous avez évoqué l'article 29 qui serait, selon vous, illicite. Telle n'a pas été la position de notre avocat. Vous pourrez toujours le contester, bien entendu. C'est tout à fait dans votre droit. La question de l'enregistrement, si vous voulez, pose le problème de l'usage. Vous l'avez évoqué. Et certes, nous sommes dans une situation où nous délibérons. Ces délibérations sont connues du public, puisque là, il y a un enregistrement qui est donné. Alors, vous dites partout, les séances sont partout filmées. Ce n'est pas le cas, elles ne sont pas partout filmées. Elles sont filmées dans certaines villes qui ont estimé que c'était utile. Ça représente un coût, ça représente un coût élevé. Nous ne considérons pas, nous, que c'est une priorité. On pouvait penser autrement. Hein. Ensuite, je crois que votre remarque portait sur l'article 91 dont nous avons déjà parlé. Et je n'ai pas vu, je n'ai plus d'autres remarques en tête, mais peut-être, je crois que c'était tout. Il y avait un autre point ?
La place, pardon, la place de l'expression de l'opposition dans la lettre du maire.
Alors, les lettres du maire, si vous voulez, correspondent généralement à un point particulier d'information et ne sont pas dans le même cadre juridique que le journal et maintenant le site internet. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point numéro 12 concerne la demande de protection fonctionnelle qui me sera accordée si vous me l'accordez. Et c'est M. Driche qui la présente.
En application de l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles du code pénal qui s'y réfèrent, du code général des collectivités territoriales, l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents ainsi que celle des élus. Au terme de l'article L21-23-35 du code général des collectivités territoriales, je cite, le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Jean-Pierre Barnot est visé par une plainte pénale déposée le 18 mai 2020 par la SCI Paris-Pierre Chennevières-sur-Marne pour les délits d'abus d'autorité, d'escroquerie au jugement, de faux et d'usage de faux et de concision à la suite d'un litige opposant la ville de Chennevières-sur-Marne à la SCI Paris-Pierre Chennevières sur la poursuite du chantier de construction d'un immeuble collectif 17 rue du Pont. Estimant avoir fait l'objet de poursuites pénales non constitutives d'une faute personnelle, M. Jean-Pierre Barnot sollicite la protection fonctionnelle prévue à l'article L21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. Il est précisé à cet effet... Non, c'est pas ça que je voulais vous dire, je continue. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir permettre à M. le maire de bénéficier des dispositions visées ci-dessus et de lui accorder la protection fonctionnelle à laquelle il a droit dans le cadre de la procédure judiciaire auquel il entend se défendre pour l'ensemble des actions judiciaires engagées ou à venir devant toute juridiction judiciaire compétente, y compris l'exercice de toute voie de recours, et ce, par une prise en charge des frais de procédure nécessités par la conduite de cette affaire.
Monsieur Pupo.
Si j'ai bien compris la note de synthèse, il y a un permis de construire qui a été délivré par la mairie en 2014, que vous avez remis en cause, c'est bien ça ? Vous attendez la suite ? Et si j'ai bien compris la suite des événements, le tribunal administratif a confirmé ce permis de construire. Alors les questions sont les suivantes, c'est combien de contentieux avez-vous eu avec la SCI Paris-Pierre ? Combien la ville en a engagé d'elle-même ? Quels ont été les résultats de ces contentieux ? Combien la ville en a gagné ? Combien la ville en a perdu ? Quel est le coût ? D'une part, en frais de justice et également dédommagement. Et nous, cette demande de protection, elle nous étonne. Alors, elle nous étonne parce qu'il y a une plainte au pénal, elle nous étonne qu'à moitié, mais si vous avez l'information et si elle est diffusable, pourriez-vous nous dire qui d'autre est mis en cause à part vous ?
Alors, il y a plusieurs personnes qui ont été attaquées par ce promoteur immobilier. Bon, vous me posez diverses questions sur les procédures qui ont été mises en œuvre. Je ne vais pas entrer dans tout le détail parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Ce promoteur, je vais en résumer quelques-unes. Ce promoteur, si vous voulez, a cru bon de ne pas remettre les documents qu'il était tenu de remettre pour la construction de cet immeuble, notamment des documents liés aux sources, liés au potentiel glissement de terrain. Nous avons exigé ces documents à plusieurs reprises. Ce promoteur s'est également autorisé à mettre des panneaux publicitaires sans respecter les règles habituelles et nous avons obtenu sur ce plan-là gain de cause. Concernant les personnes, il y a d'autres procédures, il y a des procédures sur lesquelles nous avons gagné. Alors il y a eu ensuite une série de comportements qui ne sont pas acceptables, je ne dirais pas pour moi, parce que moi je m'en fiche un peu de pratique personnelle, de comportements injurieux, mais c'est la fonction qui est importante, je crois, qu'il faut préserver. Et donc j'ai été amené à porter plainte. À la suite de ça, le promoteur a effectivement déposé une plainte concernant plusieurs personnes. Bon, je ne me sens pas ce soir autorisé à vous dire qui sont les autres personnes. Hein? Parce que je n'ai pas de raison de divulguer cette information. Vous comprendrez. Ensuite, en ce qui concerne l'idée même d'assurer la protection des élus dans leur fonction. C'est une pratique courante, pas une pratique exceptionnelle. Et je pense que, d'une certaine façon, c'est une pratique qui devrait susciter plutôt la prise en considération du risque que représente la fonction d'élu dans des tas de circonstances. Donc, au-delà, je trouve que ça ne devrait pas donner lieu à un débat du type classique opposition, majorité. Il s'agit de la prise en considération des risques qu'encourt un élu. Bon, c'est vrai que les maires sont peut-être plus exposés que d'autres, mais les chefs d'exécutif en général et les maires adjoints peuvent l'être. Donc, je pense que ça devrait donner lieu à un débat serein.
S'il vous a semblé que le débat n'était pas serein, je ne sais pas ce qu'il est. J'ai été très calme.
Moi, je sais rien, monsieur Pupo. Je vous ai dit quel était mon
sentiment. Vous dites ça à la volée. Il n'y a que moi qui ai parlé, donc je le prends pour moi. Je suis désolé. Donc, si vous le voulez bien, au même titre que vous nous fournirez les éléments des formations, j'aimerais bien que vous nous fournissiez les réponses à mes questions, si vous n'avez pas les réponses immédiates.
La totalité des procédures, elles n'ont rien de mystérieuse. Dans cette affaire, pour le moment, la ville a plus gagné que perdu en termes financiers, du fait notamment que le promoteur a perdu sur le plan de la publicité. Il a été amené à payer un montant, enfin il devrait être amené, il a fait appel, donc toutes ces procédures sont en cours. Donc au total, bon, là, ce dont il est question, c'est d'une procédure que ce promoteur engage. Alors il lui arrive de revenir en arrière, donc il n'est pas dit qu'il aille au bout de cette procédure. Bon, pour ce qu'il appelle abus d'autorité, il attaque une série de personnes qui se sont trouvées là et dont il estime qu'il peut leur faire des reproches. Voilà.
J'entends votre réponse. Je la trouve insuffisamment précise. Moi, je constate que l'immeuble dont on parle, il est en cours de construction, que le tribunal administratif a confirmé le permis de construire. Donc j'aimerais savoir combien il y a eu de contentieux entre la ville de Chennevières et ce promoteur. J'aimerais savoir combien ça coûte à la ville, ces histoires, non seulement en frais de justice, mais aussi en dommages et intérêts. Si vous n'avez pas les chiffres, je veux bien les avoir. Enfin, toute l'opposition, même je pense votre majorité, sera ravie d'avoir ce genre d'informations.
Vous dire, bon, d'abord, il s'agit de procédures en cours, donc on ne peut pas vous donner comme ça un résultat final. On le saura à la fin, mais de façon plus précise, indépendamment même du coût et du produit, puisqu'on peut voir les choses sous cet angle, de cette affaire. Il y a quand même autre chose, qui est qu'à partir du moment où les documents obligatoires n'étaient pas fournis et où il apparaissait à la ville que des sources étaient détournées, Il apparaissait également qu'il y avait le début de manifestations inquiétantes dans la copropriété se situant au-dessus de cette opération de promotion. La ville aurait été, se serait placée dans une situation bien embarrassante si, à la suite du détournement de ses sources et une fois l'immeuble construit, elle n'avait pas décidé d'engager des procédures. Car imaginez que demain, cet immeuble s'effondre.
Moi, je ne suis pas juge du tribunal administratif.
Non, mais je vous dis, vous me demandez des explications, je vous en donne.
Non,
je vous dis, non,
vous
ne
répondez
attendez,
pas
je,
à mes questions, monsieur Barnon.
Mais vous êtes libre de penser que j'y réponds, que j'y réponds pas. Moi, vous me dites coût produit. C'est ce que je retiens de ce que vous me dites. Ça coûte combien? Ça rapporte combien? Et je vous réponds qu'on ne peut pas en juger aujourd'hui puisque les procédures ne sont pas terminées. Mais au-delà de ça, je renvoie au sujet et au-delà de la procédure entamée sur le plan de ma responsabilité qui paraît aux avocats assez fantaisiste, mais qui nécessite quand même, et moi et d'autres encore une fois, et qui nécessite quand même qu'il y ait une protection juridique. Indépendamment de ça, j'évoque, moi, le sujet plus fondamental, qui est le risque d'effondrement du nouvel immeuble. À partir du moment, bon, il n'est pas certain, mais à partir du moment où on détourne des sources, à partir du moment où il y a des manifestations de risque, il est quand même naturel que la ville intervienne. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Si ça ne répond pas sur ce deuxième point à votre question, je me permets quand même d'évoquer le sujet.
Est-ce que je peux me permettre une autre question?
Bien entendu, oui.
Pas un complément, mais une autre. S'il y a d'autres élus qui sont en cause, est-ce que la protection que vous demandez s'applique à eux également?
Écoutez, il me semble qu'il n'y a pas de raison que la protection ne s'applique pas à ces autres élus. Il faudra qu'ils en fassent la demande, parce que c'est là la règle. Il faudra qu'ils en fassent la demande et que leur position d'élu puisse être suffisamment claire dans le contentieux. Mais j'y suis bien entendu ouvert. Je disais tout à l'heure que cette situation peut se dérouler pour des élus dans leur délégation, aussi bien que pour le maire. Bon, le maire, évidemment, en première ligne, obligatoirement, mais les autres peuvent être aussi concernés. On peut passer au vote. Qui est favorable? Ah, Madame Loi, il y avait une question.
Oui, j'avais... Excusez-moi. Bonsoir, tout le monde. En fait, je voulais juste revenir sur la note de synthèse pour voir si j'avais bien compris les éléments. Je la trouve plutôt bien rédigée parce que tout coule de source, en fait. La loi prévoit que le maire a droit à une protection juridique dans le cadre de ses fonctions. La mairie dispose d'une assurance, c'est écrit qu'elle dispose d'une assurance qui garantit la protection fonctionnelle. Le maire est mis en cause dans cette affaire et donc on demande au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle. Sauf que apparemment c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que en fait, l'assurance visiblement ne prendrait pas en charge ses frais. C'est ce qui est écrit, c'est-à-dire que si jamais l'assurance ne prend pas en charge, est-ce que la commune peut prendre en charge ses frais? En effet, les faits qui sont reprochés sont quand même assez graves puisqu'il s'agit de délits. Un abus d'autorité, de l'escroquerie au jugement, faux usage de faux et de la concussion. Ce sont des délits qui sont punis de peine d'emprisonnement de 5 ans et de 500 000 euros d'amende. Et donc, en fait, voilà quoi, ça paraît plus une. Enfin, si vous estimez que ce n'est pas une faute personnelle, c'est bien, mais c'est quand même assez personnel. Ce n'est pas dans le cadre des fonctions, c'est pas le cadre des fonctions d'un maire de faire ce genre de choses. Donc, je voulais juste savoir si, voilà, si tout le monde comprenait que voilà, c'était vraiment des fautes personnelles, en fait, qui vous étaient reprochées dans cette affaire.
Madame Louaille, il est bien certain que n'importe qui peut dire n'importe quoi, y compris au moment d'une plainte, que tous ces faits n'ont rien de personnel dans la mesure où ils sont liés aux événements cités avant, c'est-à-dire à l'absence de production de documents, que, encore une fois, il ne s'agit pas des conclusions d'une quelconque enquête, mais d'une plainte déposée avec l'emploi de ces termes. D'ailleurs, au passage, celui qui les emploie pourrait avoir à répondre de leur emploi.
Bien sûr.
Parce que, bien entendu, on pourrait très bien appliquer ces termes à n'importe qui d'entre nous. Hein. Il suffit pas, parce que c'est très, très grave, mais il suffit pas de dire quelqu'un fait ci, ça, 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 pour qu'il en soit coupable. Et c'est évidemment, moi je n'ai aucun intérêt personnel dans cet immeuble, donc ça n'est pas une affaire personnelle, c'est bien une affaire liée au mandat que j'exerce. Voilà ce que je voulais vous répondre. Je vous propose que nous passions au vote. Et qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Très bien, je vous remercie. Alors, on en est au point numéro 12, c'est ça ? 13. Voilà, 13. Alors, donc il s'agit de la décision modificative de budget liée aux décisions que nous avons prises lors du précédent Conseil. Monsieur Driche.
Oui, alors cette décision est directement liée à nos délibérations de la dernière fois. Cette décision modificative a pour objet d'intégrer les conséquences financières liées au programme d'emprunt voté par le Conseil municipal le 16 novembre 2020. Afin de pouvoir éditer les contrats de prêt, les différentes banques exigent dorénavant que les sommes correspondantes aux emprunts votés soient inscrites dans le budget 2020, ce qui n'était pas le cas au début des négociations, alors même que le versement des fonds interviendra sur d'autres exercices budgétaires. Les sommes relatives à ces emprunts et les dépenses afférentes seront réinscrites dans les budgets correspondants afin de conserver un équilibre entre les résultats et la trésorerie. C'est un jeu de pratique comptable dont tout le monde a... que tout le monde peut à peu près comprendre. Inscription corporelle, 25 millions. Emprunt et de dettes assimilées, 25 millions. Les deux s'équilibrent, bien entendu. Et tout cela a été fait sous le regard, sous le contrôle et avec la vigilance du trésorier.
Je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Driche, il s'agit de l'autorisation donnée au maire pour engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Cette autorisation du Conseil municipal doit être précise quant au montant des affectations de ces crédits. Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront effectivement engagés. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans le cadre de ses principes, à savoir immobilisation incorporelle, montant autorisé 106 000, subvention d'équipement versé 18 750, immobilisation corporelle 914 000, total des dépenses d'équipement 1 040 165.
Opération extrêmement courante, enfin systématique dans toutes les collectivités qui n'ont pas voté leur budget au 31 décembre, comme c'est le cas de la plupart, et dans le contexte particulier de cette année où le budget a été voté en juillet, donc je propose de passer au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point numéro 15 concerne donc le rapport et le débat d'orientation budgétaire. Bon, je vais essayer d'être assez synthétique puisque le document qui vous est présenté est très complet. Je remercie les services pour son élaboration. Concernant les données à caractère national ou international, je ne reviendrai pas sur elles puisque elles sont très claires. Bien entendu, le contexte est mouvant. Et ces données doivent être inscrites dans ce document. Elles peuvent évoluer selon des critères que nous connaissons nous connaissons, la durée de leur pandémie, ses effets que nous ne connaissons, dont nous ne mesurons pas encore toute l'ampleur. Donc, bien entendu, ils peuvent donner lieu à interprétation, mais je ne crois pas que le débat de ce soir nous permette d'épuiser le sujet. Les points d'attention dans le domaine local, concernant les recettes, elles vous sont présentées dans les grandes lignes, puisque nous les connaîtrons avec précision au début de l'année prochaine. Concernant la DGF, stabilité, mais après évidemment des baisses considérables au cours de la précédente mandature, stabilité avec une légère augmentation de la péréquation qui ne nous est pas favorable, puisque les calculs sont faits à partir du revenu par habitant et que les communes qui ont des revenus par habitant plus élevés que la moyenne sont amenées à être un peu plus solidaires encore qu'auparavant. Concernant le budget lui-même, donc les orientations que nous avons retenues pour les dépenses en fonctionnement, c'est une stabilité que nous avons souhaité mettre en œuvre. Nous ne prévoyons pas d'augmentation sensible des dépenses de fonctionnement. Concernant quelques points plus particuliers, vous avez pu en prendre connaissance, pages 11 et 12, à la fois le fonds de compensation des charges territoriales et le FPIC. Concernant la pénalité sur les logements sociaux, notre ville est légèrement carencée, ce qui explique que la pénalité s'élève à 49 847 euros. D'autre part, notre ville a également atteint les objectifs triennaux qui étaient fixés sur la période 2018-2020 pour la construction de logements sociaux, de sorte que elle conserve évidemment la maîtrise des permis de construire et la maîtrise sur ce plan est, on le sait, extrêmement importante. Donc, en recettes de fonctionnement, bien entendu, il y a des recettes qui sont très largement prévisibles, d'autres moins. Donc, il faut faire preuve d'une stratégie prudentielle en matière de recettes de fonctionnement. Celles qui le sont le moins, chacun le sait, ce sont les droits de mutation. On a toujours une certaine prudence dans l'estimation des droits de mutation, et spécialement en ce moment, on ne peut pas savoir si, bien entendu, la crise actuelle suscitera des transferts de propriété plus importants parce que les gens seraient attirés par notre cadre urbain, ou si, au contraire, il y aura une position plus timorée des acheteurs ou des vendeurs. Voilà. Concernant la fiscalité, un certain nombre d'éléments vous sont donnés. Ils sont donnés chaque année. Donc, notre taux n'évoluera pas. Il se situe à un niveau plus faible, tant pour la taxe d'habitation que pour la taxe foncière, parmi les niveaux les plus faibles du territoire, et ce, malgré une volonté d'investir, qui, évidemment, sur laquelle je ne reviens pas, puisqu'elle a été largement développée au cours du précédent Conseil. Et donc, tous ces éléments apparaissent clairement dans le document. Concernant les prêts, nous en avons longuement délibéré, donc je ne veux pas revenir sur ce point, puisque c'était l'objet des délibérations du précédent Conseil. Donc, je crois que les esprits sont suffisamment frais pour que vous soyez parfaitement au fait. Concernant les recettes et les dépenses d'investissement, ça rejoint ce que je viens de dire. Notre ville reste très largement respectueuse de la règle d'or, avec un virement à la section d'investissement, de la section de fonctionnement à la section d'investissement, qui traduit une bonne santé financière. Cette bonne santé, bien entendu, les emprunts feront baisser bien mécaniquement le rapport en nombre d'années, mais ils permettront aussi d'améliorer sensiblement la qualité des équipements. C'est notre objectif. C'est là encore une fois ce qui était inscrit dans notre projet municipal. J'ajoute qu'il me semble que les collectivités doivent s'engager dans l'investissement dans cette période, encore plus que dans les autres périodes. Car on est toujours dans la crise, mais on doit bien entendu penser à la relance. La relance de notre économie ne peut pas se faire uniquement par la consommation. Car si la relance de notre pays se faisait par la consommation, elle se traduirait par un déficit commercial très élevé. Donc bien entendu, il faut faire face aux difficultés que peuvent rencontrer les gens, donc il y aura certainement une aide à la consommation, mais à côté de cette aide à la consommation, il faut qu'il y ait de l'investissement, parce que l'investissement, indépendamment du service que ça peut rendre, améliorer les équipements, l'investissement, c'est aussi la meilleure manière de relancer durablement la machine productive. Donc la ville de Chennevières y contribuera à sa mesure. Concernant la nature des emprunts, bon ben vous en avez dans l'annexe 1 connaissance. Bon, les prêts à Chennevières sont d'une grande qualité du point de vue du risque qui représente en fonction de la charte Gisler. Donc tout cela vous est communiqué. Et donc pour le reste, le débat a largement été, chacun a pu s'exprimer sur ces questions lors du précédent conseil. Voilà. Les interventions. Madame Diringe.
Oui, merci Monsieur Barnot. Je ne doute pas un instant que ce DOB ait été fait par vos soins et d'une manière sûrement, comme d'habitude, un petit peu biaisée, mais enfin ça, on a l'habitude. Ça demande quand même néanmoins quelques explications. Je ne vais pas prendre trop de temps. Simplement du détail concernant les charges à caractère général. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond donc cette augmentation de 5,10% entre 2018 et 2019 sur le chapitre 11? Pardon? Ah oui, si vous voulez qu'on les liste au fur et à mesure, je voulais laisser le temps à Mme Vassram de répondre, mais enfin bon, comme vous voulez. Ensuite, sur les augmentations donc de 1,86 en 2019, j'aimerais avoir la part relative au RIF 7 donc, qui concerne et les recrutements. Est-ce qu'on peut les dissocier, savoir ce qui concerne l'un et l'autre? Bon, pour les tickets restaurants, on va pas revenir dessus. Je m'étais déjà exprimée il y a quelque temps pour vous dire que c'est pas cette année, enfin sur 2019 qu'il aurait fallu les augmenter, mais depuis 2016, comme je vous l'avais demandé. Du coup, vous faites supporter une augmentation brutale de 35%. Enfin, tant mieux pour les agents, hein, vous me direz. Mais ils ont perdu 3 ans dans ce domaine-là. Ça aurait pu être fait. Bon, je ne doute pas un instant que ça a été fait dans encore une fois dans un but un petit peu électoraliste. C'est pas anodin de le faire au dernier moment. Les logements sociaux, vous venez de vous exprimer dessus. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui sont à venir? On vous a posé la question au dernier conseil de savoir ce que vous prévoyez justement comme logement et notamment logements sociaux. Vous pouvez nous répondre là-dessus. Quant à la fiscalité, je me suis fait des petits voyez, il y a plusieurs choses quand même. La fiscalité indirecte qui est passée à 80,75% entre 2018 et 2019, est-ce qu'on peut avoir également du détail là-dessus, savoir à quoi elle correspond?
75%.
Oui. Ensuite, j'ai pu relever. Tac, tac. Oui. Alors ça, c'est autre chose concernant effectivement la non-augmentation des impôts communaux avec l'emprunt de 25 millions que vous faites. Je doute qu'il ne soit pas possible d'augmenter, mais est-ce que peut-être que vous avez l'intention de vendre du foncier? C'est une question que je vous ai posée également la dernière fois où je n'ai pas eu de réponse. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer aujourd'hui, à savoir si vous allez compenser par de la vente du foncier et auquel cas de quelle parcelle il s'agirait. Bon, ça, on le reposera plus tard, c'est pas bien grave. Alors, oui, vous prévoyez également d'emprunter 18,4 millions, dont 7 millions n'est pas attribué. Peut-être que vous l'avez déjà signalé, mais à quoi ça va correspondre? Vous prévoyez quoi avec ces 7 millions? Et dernier point pour aujourd'hui. Oui, oh, ça, je vous l'épargne. Voilà, déjà sur ces points-là, si vous pouvez nous répondre, Monsieur Barnot, ce serait bien.
Plusieurs points, mélanger un petit peu beaucoup de sujets, parce que les logements sociaux, certes, c'est par l'intermédiaire de la carence qu'on peut l'aborder dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, mais évoqué au titre de... du débat d'orientation budgétaire, l'ensemble des programmations immobilières, c'est un peu étrange. Voilà ma remarque préliminaire. Concernant le RIF 7, ça représente, je crois l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, un montant supplémentaire de 200 000 euros. Mais c'était déjà, d'ailleurs, je m'étonne de cette question, parce que c'était des débats que nous avions quand nous étions dans la même majorité, et nous avions fixé ce cadre budgétaire qui... alors même que vous étiez adjointe en charge du personnel, était donc connu. Et par conséquent, ce qu'on peut constater, c'est que le montant qui avait été prévu, est celui qui correspond au coût engendré pour la ville. Le ticket restaurant, je conteste absolument votre interprétation, mais c'est votre parole contre la mienne, donc bien entendu, c'est tout à fait... ce que vous dites n'est pas juste, mais bon, pas grave. Ensuite, bien entendu, l'année où vous appliquez une hausse de ticket restaurant, immanquablement, ça représente une hausse du coût, que ce soit en 2016, en 2017, en 2018 ou en 2019. N'importe quand, n'importe quel moment, l'année où vous appliquez une hausse de ticket restaurant, vous enregistrez... Vous pouvez bien entendu le faire à partir du 1er juillet, auquel cas vous avez une hausse de moitié la première année, puis l'exercice suivant, vous avez une augmentation à taux plein. Vous avez donc regardé, là c'est plus de l'orientation budgétaire, c'est plutôt de l'analyse budgétaire des années passées. Hein. Vous avez donc observé, moi je veux bien qu'on étudie chaque année, on peut même remonter jusqu'en 2014, sur les charges à caractère général, vous observerez qu'elles ont été globalement tout à fait maîtrisées, puisque nous étions à 6 172 793 euros en 2014, pour être à 5 600 000 euros en 2019. Donc, de 2018 à 2019, il y a eu une augmentation, en effet, de 270 000 euros. Mais, encore une fois, moi, j'étudie surtout, mais c'est l'analyse du précédent mandat, plus que de la prospective. Je constate que les charges à caractère général ont été beaucoup mieux maîtrisées que dans beaucoup de collectivités, puisque, encore une fois, il faut analyser ça non pas d'une année sur l'autre, mais en trend général, il y a une baisse, sans tenir compte de la... Certes, l'inflation était faible, mais elle existait, de 500 000 euros, de plus de 500 000 euros sur les charges à caractère général. Les charges de personnel sont à un niveau plus faible en 2019 qu'elles n'étaient en 2014. C'est pas, encore une fois, c'est pas tellement l'orientation budgétaire que nous sommes en train de faire, mais plutôt l'analyse du passé. Mais ça semble vous intéresser, pourquoi pas. Moi, je préférerais qu'on parle de prospective. Les programmes de logements sociaux, bon, dans tout ça, pourquoi pas. Ce que je vous ai dit, c'est que la ville avait accompli, dans les 3 années passées, le respect des objectifs triennaux qui avaient été fixés par l'État, à 100%, même plus, un peu plus. De sorte que nous n'avons pas d'accroissement de la pénalité, et on ne passe pas si facilement que ça, de 23, auprès de 23 à 25%. Donc la ville est bien décidée à progressivement rattraper, et c'est d'ailleurs ce qui se produit dans les programmes que vous êtes en situation de regarder, où il y a à peu près 25 à 30% de logements sociaux autour de la départementale 4, dans les programmes en cours. C'est d'ailleurs en partie grâce à ces programmes que nous atteignons ces objectifs triennaux. Concernant le foncier, alors vous dites quelque chose d'étrange. Me dites, voilà, si la ville s'est endettée, donc on sera obligé d'augmenter l'impôt. Bon. Ensuite, vous parlez du foncier. Bon. Et vous faites un assemblage de tout ça. Bon. Alors, le premier point, La ville s'est endettée, mais dans des conditions qui respectent la règle d'or. Tous les programmes municipaux qui étaient présentés au Canavérois en mars-juin dernier prévoyaient une hausse des dépenses d'équipement. Cette hausse des dépenses d'équipement était rendue possible par l'emprunt compte tenu de la bonne situation financière qui était la nôtre. Donc nous pouvons faire ces emprunts en respectant le ratio obligatoire des 12 ans, même en étant au-dessous. C'est pour cela que nous n'avons pas de nécessité à augmenter l'impôt. Bon. Cette situation aujourd'hui, vous me dites le foncier. Bon, ben, le foncier ne remettra pas en cause s'il était décidé, s'il apparaissait opportun d'aller plus loin dans le besoin financier, car vous n'êtes pas sans ignorer quand même qu'à Chennevières, il n'y a pas eu de dépenses d'équipement suffisantes, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant 30 ans. Donc il y a du rattrapage à effectuer. Bon, donc ces moyens financiers étaient dégagés par la... c'était décidé, il est bien certain que ça ne viendrait pas en déduction des emprunts. Hein? Mais ça permettrait d'aller plus loin dans le programme d'équipement. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir, hein, parce que ce soir, nous ne parlons pas de vente de foncier. Non. Je pense avoir à peu près répondu à l'ensemble de vos questions. Bien. Vous voulez reprendre la parole ?
Si vous permettez, donc, je reprends la parole. Oui, je pense que je dirais que les réponses que vous venez de nous faire, qui sont habituelles chez vous, hein, puisqu'elles se détournent de la vérité, vous pouvez la réserver pour votre majorité, parce que sur le fond, vous vous doutez bien que je n'en crois rien, pour la bonne raison qu'on pourrait y passer la soirée et articuler et à développer tout ce que vous venez de nous dire, qui ne tient pas la route. Mais je remarque une chose, vous pouvez vous engager, vous parliez de logements sociaux autour de la Nationale 4 notamment, vous en prévoyez au centre-ville également ? Parce que là, vous concentrez à nouveau, d'après ce que je comprends, tous les logements sociaux à la même place. Vous parlez de la Nationale 4, mais est-ce qu'il y en aura en centre-ville ?
D'abord, je voudrais vous dire une chose, vous faites preuve de beaucoup de mépris, notamment à l'égard des élus de la majorité. Oui, vous faites preuve de mépris, puisque vous dites réserver ses propos aux élus de la majorité, un petit peu comme s'il s'agissait de gens un peu limités, et susceptibles d'être influencés par des propos, tandis que vous, bien entendu, comprenez mieux que tout le monde. Bon, je trouve ça assez désagréable, et pour eux notamment. Et donc, je souhaitais le relever. Bon. Il n'y a pas lieu pendant le débat d'orientation budgétaire de développer les permis de construire. C'est pas du tout le moment. Alors, j'ai observé que vous souhaitiez qu'il y ait, c'est fait partie du débat d'orientation budgétaire, au moins de la prise de position, soit de vous, soit de votre groupe, qu'il y ait des logements sociaux en centre-ville. C'est ce que j'ai cru comprendre au travers de votre question. Ensuite, dans les immeubles, qui sont construits autour de la départementale 4, plusieurs observations. D'abord, nous restons dans les taux, ou un tout petit peu au-dessus pour rattraper, mais nous ne sommes jamais au-dessus de 30%. Le taux normal est de 25%. Ensuite, parmi ces logements, nous y sommes contraints par le fait que nous sommes carencés des PLAI, mais il y a aussi des PLS en très grand nombre. Vous savez peut-être qu'à partir du moment où une ville est carencée, elle doit satisfaire aux demandes par type de logements sociaux. Donc nous appliquons, puisque nous avons atteint nos objectifs, nous appliquons la règle. Voilà. Alors il y a bien entendu beaucoup de demandeurs de logements. Nous ne pouvons pas tout satisfaire à Chennevières, mais nous apportons, comme en témoignent les réponses du préfet à l'issue de cette période triennale, nous apportons notre pierre à l'édifice.
Puis-je ?
Et vous pouvez,
oui, tout simplement pour redresser quand même la situation. Non, je n'ai aucun mépris à l'égard de la majorité, enfin des membres, surtout nouveaux. qui ne malheureusement connaissent pas tous les rouages encore du conseil municipal et des décisions que vous prenez. Ils mettront autant de temps que nous à vous découvrir, et ça, en aucun cas, bien évidemment, je n'ai du mépris pour aucun d'eux.
Alors, là, Madame Déringer, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que d'abord, nous avons des élus de la majorité qui peuvent prendre la parole quand ils le souhaitent, pour nous dire, et j'aimerais bien les entendre, s'ils sont d'accord, bien entendu, moi, ce n'est pas une injonction, s'ils estiment avoir reçu à plusieurs reprises les informations nécessaires et complètes. Parce que là, vous êtes en train de porter une accusation très gênante vis-à-vis de la construction de ce budget. Et je crois que, pour avoir connu les vies municipales dans une vie antérieure, à Chennevières toujours, je n'ai jamais vu autant d'informations données sur tous les sujets qui sont traités de la vie municipale. Et ça continue d'autant mieux que cette majorité est sereine et soudée, si vous voyez ce que je veux dire.
Pour l'instant, Monsieur Driche, je vous l'accorde, nous avons fait pareil pendant quelques années, donc je veux bien que vous trouviez toutes les excuses du monde, mais je vous dis, le temps fera les choses, et c'est tout, hein, pas plus dur que ça. Il n'y a même pas besoin de se justifier, on laissera aux gens le temps de découvrir.
Madame Viragé, vous avez tendance à généraliser à partir de votre cas particulier et de vos ambitions personnelles, ce qui n'est pas la règle collective. Voilà, mais je ne crois pas utile de débattre à l'infini sur ce sujet.
Vous avez l'air d'avoir quand même beaucoup de belles intentions envers notre égard. Par contre, je trouve quand même que pour les premiers conseils auxquels nous avons participé, en effet, je pense que... En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. En effet, c'est quand même assez négatif pour nous. Moi, je ne voyais pas forcément ça comme ça, mais ça nous permet aussi de vous découvrir un peu plus aussi. Et pour l'instant, en effet, je n'en ai pas forcément une belle image en soi. Je peux comprendre qu'en effet, nous avons à chacun d'entre nous, notamment pour les nouveaux, hein, je ne dis pas, on a plein de choses encore une fois à apprendre. Maintenant, vous avez une image de nous qui est un peu comme celle que vous représentez, que j'ai encore vue aujourd'hui, l'image du mouton, et ça, j'apprécie pas forcément. Je considère que c'est une attaque quand même directe que vous faites. Maintenant, je pense que moi, j'aurais exprimé en effet mon ressenti si vous intéressez réellement.
Et prendre la parole. Et on n'est pas dans un dialogue, madame. Vous êtes prête à... Dès lors qu'il s'agit de créer des divisions ou d'être déloyale, vous êtes toujours prête. Ça, nous sommes au courant.
Moi, je voudrais prendre la parole parce que, effectivement, c'est à titre personnel. J'ai pris ça un peu comme une forme de mépris. Vous savez, madame Diringer, j'ai du respect pour vous. Je pense que ça, vous êtes au courant. En revanche, je ne retrouve pas dans vos propos l'opposition constructive dont avait parlé monsieur Pupo, qui lui, pour le coup, je trouve, a des objections qui l'intéressent. Alors, il a son avis sur les questions et il pose ses questions assez sereinement. Votre prise de parole ce soir ne vous honore pas, en tout cas.
Et écoutez, on ne laissera pas, je dirais, la discussion qu'on a pu avoir, vous et moi, monsieur Châtel, il y a quelque temps déjà. D'accord ?
Ouais. Il me semble que vous avez des échanges avec la plupart d'entre nous, d'ailleurs.
Non, mais on peut être... Moi, j'ai rencontré Madame Diringer, effectivement, mais monsieur le maire est au courant, il n'y a pas de secret, donc je ne sais pas où vous voulez en venir, mais... j'ai cru.
Diringer veut donner l'impression qu'elle fait des scoops, mais ça tombe finalement un peu à côté. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut sortir de ce débat qui...
Oui,
Denis voulait dire.
Je voudrais dire et demander à Mme Diringer qu'elle arrête ses attaques. Elle ne fait plus partie de la majorité. Vous êtes conseillère municipale. Donc arrêtez de nous attaquer à chaque fois, à chaque conseil municipal. Ça devient exacerbant. Croyez-le moi.
Nous donnions acte de ce rapport et débat d'orientation budgétaire. Je vous rappelle que, à présent, il faut un vote pour simplement donner acte que le débat a bien eu lieu. Il ne s'agit pas de voter, il ne s'agit pas du vote du budget, mais simplement d'un don d'acte. Donc, qui prend acte du budget, du débat d'orientation budgétaire ? Qui, Madame Loy aussi ou pas ? Non, j'ai eu l'impression que vous leviez la main. Donc, qui considère qu'il n'y a pas eu de débat ? vote donc. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Très bien. Bon, parfait, je vous remercie. Le point numéro 16 sera présenté en l'absence de Madame Lemeunier par Monsieur Drich. Il s'agit donc du rapport d'activité 2019 de la société People and Baby.
Alors, d'abord, j'ai une pensée pour ma collègue qui est souffrante. Et je vais vous lire la note qu'elle avait préparée. La société People and Baby est en charge l'accueil des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Et je voudrais rappeler, avant d'ailleurs de vous dire ces quelques mots, que ce rapport a bien entendu été présenté en commission consultative des services publics. L'organigramme est composé de 20,8 équivalents temps plein, 19 temps plein, 2 agents à 50% et 1 agent à 80%. Durant l'année, la crèche a accueilli 104 enfants. Le taux d'occupation facturé est de 79%. La baisse du taux d'occupation facturé est liée à la demande de réduction de la capacité maximum d'accueil demandée par la PMI en 2018. Le taux d'occupation en 2018 était alors de 82,1%. L'accueil régulier représente 97% contre 3% d'accueil occasionnel. Les contrats 5 jours semaine représentent 66%, 4 jours semaine 23%, 3 jours semaine 5%, 2 jours semaine 3%, 1 jour semaine 3%. En conséquence, 89% des familles accueillies ont un contrat de 4 jours ou plus. Des travaux ont été réalisés dans l'année, comme la remise aux normes de l'aire de jeu et d'autres choses. Vous trouverez la liste exhaustive jointe dans le rapport que vous avez pu lire dans toute son intégralité.
Là aussi, il s'agit d'un contact. Donc, voilà, vous avez pris connaissance du rapport. Il s'agit de constater, donc, qui le constate ? Qui ne prend pas part au vote ? Alors, Monsieur Rapti ne prend pas part au vote. Très bien. Qui vote contre ? Je considère qu'il n'y a pas eu de présentation du rapport, donc. Qui s'abstient ? Donc, à l'exception de Monsieur Rapti, abstention. Alors, le point 17, Madame Vialatou, il s'agit cette fois-ci de la société Elior et de son rapport d'activité.
La ville de Chennevières-sur-Marne a conclu avec la société Elior un contrat d'affermage concernant le service de la restauration d'une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2014. Par délibération du 20 juin 2019, le contrat a été prolongé jusqu'au 27 août 2020. La société Elior a assuré la fourniture et la préparation des repas et des goûters pour les cantines scolaires, les garderies, les centres de loisirs. Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les délégataires de services publics doivent produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant un compte-rendu financier et une analyse de la qualité du service. Le rapport de l'année 2018-2019 est annexé à la présente note. Il a été présenté à la Commission consultative des services publics locaux le 4 décembre 2020. La note s'y annexée présente le compte-rendu financier. Le rapport a pu être consulté à l'hôtel de ville. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la transmission du rapport d'activité 2018-2019 de la société Elior. Je vous remercie.
De ce rapport. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Madame Diringer ne s'est pas exprimée. Madame Diringer, vous n'avez pas levé la main dans aucune des hypothèses. Le point numéro 18, il s'agit des décisions municipales. Et s'il n'y a pas de remarques, nous passons aux questions. Donc, la première question concernait, dont je la lis, lors de vos explications en conseil municipal du 16 novembre dernier, dans votre lettre du maire numéro 18, ayant pour unique sujet les emprunts de 25 millions d'euros que vous avez contractés, vous ne faites jamais référence aux 1,8 million d'euros de frais de remboursement anticipés payés par la ville. Ces frais, pourtant, font partie des éléments primordiaux à prendre en compte dans le choix, l'explication et la présentation d'un crédit. Pourquoi ne les présentez-vous pas dans la lettre du maire numéro 2018 ? Alors, je voudrais vous dire que, bien entendu, ces frais ont été exposés dans la note relative aux emprunts. Il n'y a rien à cacher là-dedans. D'ailleurs, je fais observer que Mme Borduit, lors du précédent conseil, nous a dit que c'était une pratique courante et justifiée que de renégocier des emprunts. Ça l'est spécialement, d'ailleurs, dans le contexte actuel, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et il est certain que les 0,26% de ces prêts renégociés sont à majorer, bien entendu, des conséquences financières, comme c'est le cas dans toute renégociation d'emprunt. Il n'existe aucune renégociation d'emprunt qui n'ait pas de répercussions financières. Au total, bien entendu, comme on part de durées plus courtes pour aller vers des durées plus longues, il y a un différentiel dont il n'est pas possible d'évaluer l'impact définitif, puisque comme il est sur une durée plus longue, il dépend de l'inflation et de l'érosion monétaire. Plus il y aura d'érosion monétaire, plus l'effet de la durée sera important sur l'impact de l'emprunt. Pour le reste, cette renégociation d'emprunt devrait vous rassurer, puisque vous étiez inquiet des impôts. En étalant la durée, elle permet d'abaisser singulièrement le coût annuel du remboursement de ces emprunts. Question numéro 2. Contrairement à l'ensemble des villes ayant proposé un service mutualisé de click and collect, Chennevières est la seule où l'absence de commerçants est notoire. Pouvez-vous nous indiquer les actions menées par la ville pour informer, assister et encourager les commerçants, souvent pas ou peu digitalisés, à rejoindre la plateforme du prestataire que vous avez choisi? Les quelques tweets et posts Facebook de la mairie ne nous semblant pas adaptés pour informer des commerçants, justement, non digitalisés. Est-ce que Teresa a la...
Bon. Je vais lire la réponse, alors. Comme j'avais eu l'occasion de le dire en préambule du précédent conseil municipal, nous sommes aux côtés des commerçants qui ont dû dans un premier temps fermer une nouvelle fois fin octobre et rouvrir avec un protocole sanitaire strict. Je peux vous assurer que nous sommes entièrement mobilisés pour faciliter la vie et le travail des commerçants canavérois, avec notamment Mme Lesseau et M. Châtel, mais aussi l'ensemble des élus pour trouver des solutions. Je pense que sur le sujet du soutien aux commerçants canavérois, il n'y a pas lieu de faire de polémique. Je suis convaincu que nous partageons tous les mêmes ambitions, à savoir dans un premier temps la volonté de consommer localement. Pour rappel, des actions qui étaient mises en place par la ville depuis le début du second confinement. En date du 17 novembre 2020, la mairie de Chennevières a été l'une des premières communes du Val-de-Marne à avoir adhéré au service gratuit pour les commerçants Ma Place de Noël, en partenariat avec la CCI Paris-Île-de-France. La ville de Chennevières, en s'associant avec la CCI Paris-Île-de-France, a permis aux commerçants de la ville de profiter gratuitement d'une plateforme Internet permettant la vente à distance, vente en ligne, click and collect ou e-réservation. En date du 19 novembre 2020, un mail à destination de l'association artisanale et commerciale canavéroise et à la directrice de la galerie commerciale de Pincevent a été envoyé en expliquant la démarche et le dispositif afin qu'ils puissent communiquer directement à leurs adhérents et à leur réseau. En date du 23 novembre 2020, un mail à destination de la ACC et de la directrice de la galerie commerciale de Pincevent a été transmis pour informer des dates de formation à distance afin de présenter la plateforme aux commerçants. En date du 24 novembre 2020, ce même mail a été transmis à plus de 50 commerçants de la commune. Un article a été publié sur le site de la ville, toujours présent à la une. Premier post sur le Facebook de la ville. Post également sur le Facebook du centre municipal de la Colline. À partir du 27 novembre 2020, voyant peu de participants, Mme Lesseau, M. Mokhtari et le service développement économique ont appelé les différents commerçants de la commune. Souvent, il est ressorti à manque de temps, trop de démarchages, la réouverture de leur commerce. Et, bon, en date du 29 novembre 2020, nous avons fait un nouveau post, de même que le 3 décembre, le 6 décembre, le 10 décembre. Un mail de relance du service développement économique a également été transmis à l'ensemble des destinataires ci-dessous. Et en date du 11 et 12 décembre, à nouveau, nous avons continué à informer les commerçants. Donc, après, la réactivité, la question peut toujours se poser, mais nous les continuerons à les accompagner et à essayer de faciliter la démarche de digitalisation des commerces à Chennevières. Question numéro 3. L'article 2241 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Lors de la présentation du compte administratif 2019 et sa délibération au conseil municipal du 23 juillet 2020, ce bilan n'était pas annexé à la délibération. Pourquoi ce bilan n'a pas été transmis comme il aurait dû lors de la délibération du compte administratif le 23 juillet 2020 ? Est-ce que ce bilan a été réalisé ? Pouvez-vous nous communiquer ce bilan annuel et l'ajouter aux prochaines délibérations du conseil municipal ? Voilà la réponse. Le bilan a bien été annexé dans le compte administratif 2019 de la page 151 à 153. Pour votre information complémentaire, il n'y a pas eu d'opération d'acquisition ou de cession en 2019 dans le sens financier du terme. Voilà, donc sur ces trois questions. Avant de clore le conseil, je voudrais avoir une pensée pour un des Canavérois, d'abord pour tous les Canavérois qui souffrent du Covid et qui, pour certains d'entre eux, malheureusement, en a des conséquences graves. Et je pense tout particulièrement à Monsieur Dieu, qui est un acteur de la vie locale. Et qui est malheureusement décédé des suites du Covid. Peut-être Monsieur Le Ternec voudrait-il dire un mot ?
Merci Monsieur le maire. Oui, malheureusement notre ami, et je suppose votre ami aussi, Monsieur Fabien Dieu est décédé le 1er décembre et nous avons malheureusement été aux obsèques avec Madame Courtois le 11 décembre. J'étais un petit peu... Je ne sais pas comment vous dire, un petit peu chamboulé vis-à-vis de vous en face, l'opposition, vous avez fait aucun geste à ce monsieur. Madame Déringer, vous avez pris la parole beaucoup ce soir envers monsieur le maire, pour des choses complètement absurdes, mais vous avez été incapable, je mâche pas mes mots, incapable de participer à une cagnotte pour le repos de ce monsieur. Et croyez-moi que vraiment, c'est lamentable de votre part. Merci.
D'une part, Monsieur Le Ternec, je ne vous autorise pas vraiment à dire ou à juger. Néanmoins, vous ignorez ce qui a été fait de notre côté. Par conséquent, vous vous abstenez de faire des commentaires ridicules.
Madame Déranger, je fais les commentaires comme vous l'avez fait avec Monsieur Barnot. Les mêmes. Et j'ai pas d'ordre à recevoir de votre part, parce que vous êtes vraiment... Crois-moi, de 2014 à 2019, vous avez été avec nous, mais depuis que vous avez quitté la majorité, vous êtes vraiment lamentable. Et je ne mâche pas mes mots.
Ça vous ressemble, monsieur
Le Ternec. On va peut-être éviter les attaques ad hominem. Je ne pense pas que ça soit utile ce soir pour terminer ce conseil. Je voudrais vous souhaiter à tous et toutes de bonnes fêtes dans toute la mesure du possible et compte tenu des conditions sanitaires qui sont les nôtres, et vous inviter évidemment, comme on doit tous le faire, à la plus grande prudence dans cette situation si particulière. Je vous remercie.